Théophile Gautier, Sylvain. Henri Heine, dans un charmant article, a décrit les occupations et les déguisements des dieux en exil. Il nous a montré, après l'avènement triomphal du christianisme, les Olympiens forcés de quitter leur céleste demeure, comme au temps de la guerre des Titans, et s'abandonnant à diverses professions en harmonie avec le prosaïsme de l'ère nouvelle. Sans les renseignements positifs qu'il a recueillis de la bouche de Nicole Anderson, le baleinier, nous ignorions que Zeus, le dieu aux noirs sourcils et à la chevelure ambrosienne, est devenu un simple marchand de peau de lapin, comme l'ami du père de France d'Henri Monnier, et qu'il vit de cet humble commerce au milieu d'une petite île de la mer polaire, entre son vieil aigle à demi déplumé et la chèvre amaltée aux pies éternellement roses, répondant en dactyle et en spon des homériques aux demandes de ses rares clients. Nous ne saurions pas non plus qu'Apellos, jetant la nuit le froc de moine qui le couvre le jour, célèbre avec toute la pompe antique les mystères des bacchanales au fond des forêts de la Thuringe, en compagnie du père Sellerier transformé en Silène, et des jeunes novices reprenant le pied de bouc de l'Égypan ou la peau de tigre de l'ami Malalolne. C'est par lui encore que nous avons appris le sort d'Hermès Psychopompos, actuellement entrepreneur de transport des âmes sous l'habit de ratine d'un négociant hollandais, ainsi que celui de la sage Pallas Athéna, réduite à ravauder des mâts et de la dévergondée Aphrodite, arrivée, comme une lorette vieillie, à faire des ménages et à poser des sangsues. Mais le poète allemand, si bien informé, n'a rien dit d'ailleurs du dieu de Sylvain. Nous sommes en état de combler cette lacune. Sylvain, que l'on croit mort depuis 2000 ans, existe, et nous l'avons retrouvé. Il s'appelle Denecourt. Or, les hommes s'imaginent qu'il a été soldat de Napoléon, et ils ont pour eux les apparences. Mais, comme vous le savez, rien n'est plus trompeur que les apparences. Si vous interrogez les habitants de Fontainebleau, ils vous répondront que Denecourt est le bourgeois un peu singulier qui aime à se promener dans la forêt. Et en effet, il n'a pas l'air d'être autre chose. Mais examinez-le de plus près et vous verrez se dessiner, sous la vulgaire face de l'homme, la physionomie du dieu sylvestre. Son paletot est couleur bois, son pantalon noisette. Ses mains, hâlées par l'air, font saillir des muscles semblables à des nervures de chêne. Ses cheveux mêlés ressemblent à des broussailles, son teint a des nuances verdâtres et ses joues sont veinées de fibrilles rouges comme les feuilles aux approches de l'automne. Ses pieds mordent le sol comme des racines et il semble que ses doigts se divisent en branches. Son chapeau se découpe en couronne de feuillage et le côté végétal apparaît bien vite à l'œil attentif. C'est sous la protection de ce dieu sans ouvrage que prospère cette belle forêt de Fontainebleau, si aimée des peintres. C'est par lui que les chênes prennent ces dimensions énormes et ces attitudes bizarres qui retiennent des bois entiers, Rousseau, Diaz et Vercance au Babréau. C'est lui qui dégage des amas de sable les roches singulières, qui fait filtrer l'eau de diamants sous les velours des mousses, qui fraye le chemin aux fourrés secrets, aux taillis mystérieux, aux perspectives inattendues, qui écrase sous son talon la vipère à tête plate et entr'ouvre les branches pour laisser passer le chevreuil poursuivi. Souvent, l'artiste, sa boîte au dos, s'engage au hasard dans la forêt touffue et profonde. Les masses de verdure voilent l'horizon. Les rochers se dressent comme des murailles. Le chemin aboutit à un fort impénétrable où les fauves peuvent à peine se glisser. Mais tout à coup, une main invisible écarte le feuillage. Entre deux troncs satinés et plaqués de velours vert, une étroite sente se dessine comme foulée par le pied furtif des fées et des nymphes bocagères. Les épines se rangent, les ronces dénouent leurs filaments, les rameaux se redressent comme dans les forêts enchantées quand on a prononcé le mot magique. La route devient aisée, quoique presque invisible. Au carrefour douteux, vous trouvez sur les pierres blanches des flèches qu'on croirait tomber des carquois de Diane. Leurs pointes vous dirigent vers le haut. Un grès d'une difformité curieuse, une grotte aux accidents pittoresques, un arbre séculaire ou historique, un point de vue d'une étendue immense. Et pendant que vous cheminez, vous entendez parfois remuer dans les feuilles, et vous croyez que c'est un oiseau effrayé qui s'enfuit, un lapin qui regagne son gîte. Nullement. C'est Sylvain qui vous accompagne de sa protection bienveillante et rit doucement lorsqu'il voit l'admiration pour sa chère forêt se peindre sur votre figure. Confiez-vous à lui et n'ayez aucune crainte. Il vous ramènera toujours à l'auberge où le poulet se dort devant le foyer, où l'écume rose du vin mousse à la gueule du broc. Et pour cela, vous n'aurez pas besoin de lui offrir des sacrifices comme au temps où son effigie de marbre, couronnée de feuilles et de pommes de pin, se dessinait blanche sur le fond sombre des bois de Grèce et d'Italie. Tant d'exigences n'iraient pas à un dieu tombé. Quelquefois, la nuit, il rencontre, immense, seul, le dieu gaulois, entré depuis des siècles dans le cœur des chênes, d'où l'on taillait à coups de serpe sa grossière image. Et ce sont entre eux le touchant dialogue sur la dureté des temps, sur les ravages que fait la hache dans les bois sacrés, sur la moqueuse impiété et la noire ingratitude des mortels. « Hélas !» se disent-ils, « la verte chevelure de la mère Cybèle tombe boucle à boucle, et bientôt apparaîtra tout nu le crâne chauve de la terre. Tâchons au moins de sauver la forêt de Fontainebleau. La femme légale de Donnecourt, qui ne sait pas être l'épouse de Sylvain, que quelques mythologues confondent avec le grand Pan, dont une voix lamentable proclama la mort il y a tantôt 20 siècles, ne comprit pas l'amour de son mari pour la forêt, et sa jalousie s'alarma de si longues absences. Elle crut à des rendez-vous vulgaires, à des voluptés illégitimes sous la tente verte des feuilles. Le dieu Sylvain fut suivi, épié, et l'épouse se rassura en ne voyant jamais un chapeau de paille orné d'une fleur l'accompagner dans ses promenades solitaires, ni une jupe adultère s'étaler à côté de lui sur le gazon pendant ses haltes méditatives. Quelquefois, Sylvain tenait embrassé le furu de la chêne, mais qui songerait être jalouse d'un arbre. Elle ne savait pas, la bonne dame, que sous la rude écorce palpite aux approches du dieu le tendre sein de la jeune et belle Amadriade qui n'a rien à refuser au maître de la forêt et pour lui dépouille son épaisse tunique ligneuse frangée de mousse d'or. Et alors s'accomplissait le mystérieux hymen. Le soleil brillait plus vif, la végétation redoublait d'activité et de fraîcheur. Des bourgeons gonflés de sève éclataient sur les branches mortes, l'herbe poussait haute et drue, la source babillait sous le manteau vert du cresson, les oiseaux improvisaient de superbes chansons, et l'antique forêt, reverdie et rajeunie, tressaillait d'aise jusque dans ses plus intimes profondeurs.